Mais la maison, passée de main en main et mal entretenue, commençait à se délabrer. Ariane s'y était enfermée et y avait vécu chichement jusqu'à sa mort, heureuse envers et contre tout d'être rentrée chez elle. Anne traversa la clairière, le chien sur ses talons, et alla se réfugier dans la cuisine où ronflait le vieux poêle Gaudin. Comme presque chaque jour, le courrier apportait de nouvelles factures, des devis. L'aménagement du deuxième étage en chambre d'hôte était un projet pharaonique qui donnait le vertige à Anne. Beaucoup d'investissements et, sans doute, peu de rapports à en attendre. Il faudrait de nombreuses années avant d'amortir les travaux, mais au moins, la maison vivrait pendant ce temps-là. Et chaque couche de plâtre, chaque tuyau ou câble électrique posé lui redonnait un peu de son lustre d'antan. Juste un peu, car pour bien faire, il aurait fallu tout reprendre, des fondations jusqu'au toit, ce qui était impossible. D'un geste résigné, Anne éparpilla le courrier sur la table. Elle tendait la main vers la cafetière lorsqu'elle repéra parmi d'autres une lettre de son avocate. L'enveloppe était reconnaissable, avec le tampon du cabinet en évidence. Et chaque fois qu'Anne en ouvrait une, elle éprouvait le même sentiment de colère et d'impuissance. Elle déplia la feuille, sauta directement à la conclusion. Un rendez-vous devant le juge, au tribunal. Dans 4 semaines. Paul et son avocat, Anne et la sienne, avec un magistrat pour prononcer le divorce. Et tout serait consommé en quelques minutes. Oh, Paul! Elle dut s'asseoir pour reprendre son souffle. Ainsi, elle allait vraiment divorcer. Paul et elle s'aimaient toujours. Ce prétendu consentement mutuel pour se séparer était absurde. Comment Paul, qui était son mari, son ami, son amant, le père de son fils, l'homme avec qui elle croyait avoir construit sa vie, avait-il pu se transformer en ennemi? Entamer une procédure leur avait fait prendre conscience de la gravité du conflit qui les opposait, et ils s'étaient mis à se regarder autrement, à s'interroger, à douter. De là à tout casser.
« Tu viens d'apprendre un décès ?»
lui lança son frère en entrant dans la cuisine.
« Si c'est ça, j'espère que tu vas faire un autre héritage. »«
Très drôle, » soupira-t-elle. Jérôme l'agaçait souvent, mais, contrairement à ses craintes, il se révélait utile pour la maison. Il n'était pas qu'un pique-assiette, ainsi qu'il entraînait la réputation. Et dès le début, il avait été le seul de la famille à ne pas lui donner tort dans cette histoire d'héritage. Le seul à ne pas montrer d'aigreur, à ne pas saisir l'occasion pour régler d'anciens contentieux.
« Tu verrais ta tête ?»
insista-t-il. Baissant les yeux sur le courrier, il se tut 2 secondes, puis lui tapota gentiment le dos en marmonnant.
« Allez, tu vas reprendre ta liberté. Tu n'as rien à regretter. »«
Qu'en sais-tu ? » ?»«
Paul est un emmerdeur, je l'ai toujours dit, et il t'en a donné la preuve. Tu le prenais pour un type idéal. D'ailleurs, tout le monde le croyait parfait, mais ce n'est qu'un égoïste. » Et un macho.
Anne haussa les épaules sans répondre. Paul n'avait pas voulu bouleverser son existence. Il avait refusé de suivre sa femme dans l'aventure de la Bastide. Il s'était persuadé qu'il s'agissait d'un caprice et qu'il n'avait pas à céder. Certain qu'elle s'inclinerait une fois de plus, il avait posé un ultimatum. Ce sera sans moi. En effet, il n'était pas là. Il vivait désormais en célibataire dans sa petite maison de Casté et il avait été le premier à contacter un avocat.
« Ah, mon catalogue de carrelage !»
s'extasia Jérôme. Parce qu'il avait mené jusqu'ici une existence de nomade, voyageant au gré de ses envies et multipliant les petits boulots sans intérêt, toute la famille Nogaro tenait Jérôme pour un incapable, un raté. Pourtant, l'idée des chambres d'hôtes venait de lui. Et depuis le début du chantier, il mettait vraiment la main à la pâte, dévoilant de surprenantes qualités de bricoleur. Bien sûr, chez sa sœur, il avait trouvé un refuge qui offrait un gîte confortable avec un couvert copieux et où on ne lui infligeait pas de discours moralisateurs. Anne s'était même débrouillée pour le libérer des dettes qu'il avait laissées derrière lui à Londres et qui lui créaient des ennuis. Elle ne s'offusquait pas du fait qu'il aime autant les filles que les garçons. Le laisser conduire sa voiture lorsqu'il s'offrait une virée à Dax ne lui posait jamais de questions indiscrètes. En conséquence, il se sentait bien dans la Bastille.